Je vous remercie d'avoir fait une présentation, M. Schmitt, aussi détaillée, aussi élogieuse. Parfois, je ne me reconnais plus dans tout ce que vous m'attribuez. Donc, c'est bien. Merci. Et je pense que ça prouve que j'ai aimé, je parle au passé quand même, il est temps, ça prouve que j'ai aimé le travail collectif, ça prouve que j'ai aimé beaucoup d'approches archéologiques qui n'étaient pas forcément traditionnelles, et que je me suis intéressé en particulier aux idéologies qui accompagnent d'une façon ou d'une autre l'archéologie. Et des idéologies, il y en a à ne plus savoir qu'en faire autour de l'archéologie. On ne peut pas aujourd'hui les envisager toutes, mais il y en a beaucoup. Dans le domaine des mythes, je me demandais tout à l'heure, en écoutant M. le proviseur, si on ne pourrait pas se lancer à étudier un mythe, Le Corbusier. Le Corbusier, Xenakis, enfin une série de gens comme ça. Il y a peut-être une matière, mais ce n'est pas la mienne. Hein. Non, je vous rassure. Donc, merci à tout le monde, en particulier à Jean-Claude Schmitt, d'avoir fait cette présentation si élogieuse. Merci, bien sûr, mais tout le monde l'a dit aux autorités du lycée, de la commune, du campus Condorcet, d'avoir organisé ce bel ensemble de conférences. Je me sens flatté d'avoir été invité à vous présenter quelques réflexions sur l'Atlantide. Donc, oui, et pourquoi, au fond? Pourquoi me suis-je intéressé à l'Atlantide en tant qu'archéologue? Vous allez le comprendre à un certain moment, c'est parce qu'il y avait Santorin, parce qu'il y avait Akrotiri, des découvertes qui, au temps où je vivais à côté de ces lieux, avaient attiré l'attention de tout le monde. Et donc, à ce moment-là, je me suis demandé, que faut-il penser de cela? J'ai mis beaucoup de temps à réagir, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment on pouvait présenter les choses, c'est ce que je vais faire maintenant. Mais à l'époque, ça n'était pas évident, on avait l'impression que on avait vraiment trouvé l'Atlantide. Donc la question est un peu plus compliquée. L'Atlantide, c'est un monde virtuel avec ou sans point d'interrogation. Et les questions qui sont liées à l'Atlantide, à ce sujet, je les résume sur un tableau. Je fais apparaître quelques notions pour vous aider à vous repérer dans ce que je dis, et puis aussi pour que vous ayez l'orthographe de certains noms propres qui ne sont pas forcément familiers. Et donc, de cette manière, j'espère que vous aurez plus de facilité à suivre mon propos, qui, par ailleurs, ne devrait pas être très compliqué. Donc, les questions qui sont liées à l'Atlantide sont littéralement infinies. La première, où la situer? Où allons-nous mettre cette Atlantide? Et derrière celle-là, comment pouvons-nous comprendre les textes de Platon et que pouvons-nous penser des interprétations qui ont été faites de ces textes et d'autres textes à travers les siècles? Il est extrêmement facile, c'est le plus facile, de se perdre dans ce dédale, parce que c'est véritablement infini. À une certaine époque, j'ai compté, non, la machine a compté pour moi les références sur Internet. Il n'y en avait que 25 millions à cette époque-là, donc ça fait quelques années. Et les ouvrages publiés se montaient seulement à 40 000, hein, donc c'était relativement raisonnable. Et ça s'explique puisque là-dedans s'entremêlent des questions philosophiques, des problèmes historiques, des utilisations idéologiques, des développements artistiques. On a toucher l'Atlantide de tous les côtés possibles et imaginables. Ce que je voudrais faire ici, modestement, c'est proposer dans cette jungle un itinéraire relativement simple, relativement rapide, qui empêche de s'égarer complètement, mais sans vous promettre la vérité, avec ou sans guillemets, vous allez voir que la vérité, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Et sans prendre non plus la chose trop au sérieux. Je n'aime pas les choses qui sont prises trop au sérieux. Donc à la fin, si vous avez des questions amusantes, n'hésitez pas à les poser. Hein, Donc l'Atlantide, c'est d'abord une passion. C'est la première constatation qu'on peut faire avec ces chiffres-là que je rappelais il y a un instant. On peut dire que c'est quelque chose qui a toujours passionné les foules, comme on dirait. On l'a qualifié de mythe suprême de l'humanité. On a parlé du plus prodigieux roman policier de l'histoire. Ça, c'est magnifique. Moi, j'adore les romans policiers. Je suis des tas de séries à la télé. Et de temps en temps, il y a des trucs sur la télé, mais c'est complètement idiot. C'est pas intéressant du point de vue policier. Mais en tout cas, elle a constitué un mythe de nature policière. Mais c'est resté, en tout cas, un des problèmes historiques les plus populaires depuis l'Antiquité. Et c'est avec la Renaissance et avec la redécouverte des textes de l'Antiquité, puis avec les grandes expéditions maritimes, que cette histoire a commencé. Ce n'était pas tellement au début, c'est à ce moment-là seulement qu'elle a commencé à enflammer les esprits et qu'elle est devenue un véritable mythe moderne qui a donné naissance à d'innombrables hypothèses. L'Atlantide a été localisée, commençons avec ça et puis on sera tranquille, elle a été localisée un peu partout à la surface de la Terre, hein. Je vous ferai une énumération tout à l'heure, mais on aurait plus vite fait de compter les endroits où elle n'a pas été localisée. Là, il y en a 4 ou 5, donc ça va. Mais ce qui m'a, comment dire, titillé, si vous permettez l'expression, c'est que cette question a aussi passionné non seulement les foules, comme je disais, mais les chercheurs et les scientifiques de tous bords. Depuis la fin du XIXe siècle, en tout cas, on voit le sujet abordé, non pas par des archéologues, mais d'abord par des géologues, ensuite seulement par des archéologues. Et aujourd'hui, ça continue, c'est une véritable pluie, un déluge, une grêle. Les hypothèses se succèdent. Ne venez pas me dire que la semaine dernière, on en a trouvé une. Hein. Ça, on est au courant, on le sait. Chaque semaine, on en trouve une. Et elles sont fondées sur des... Ces hypothèses nouvelles sont fondées à chaque fois sur des recherches de haute technicité. Évidemment, on a les radars, les sonars, les pulsars, les machins, etc. Elles sont patronnées par de riches universités américaines qui ont les moyens et qui n'ont pas toujours de projets plus... Enfin bon, bref, elles sont financées par la National Geographic Society. Et elles sont, je pense que c'est ça le bout de la chaîne, c'est ça qui est révélateur au fond, elles sont relayées sans relâche par les médias. On s'embarque, on fait un film avec ça. Le but, c'est le film. Le reste, ma foi, on s'en fiche un peu. Donc c'est un phénomène qui n'explique certainement pas tout, mais qui permet de comprendre au moins certaines choses. Donc, ce que je vous... Non, ça, c'est juste pour... Juste pour s'amuser, c'est une affiche qui n'a pas eu de rapport direct avec l'Atlantide, mais qui peut illustrer le genre de dérive que l'on rencontre. Donc, on va tout de suite retourner à l'acte de naissance ou aux actes de naissance de l'Atlantide. Donc, toute l'histoire commence avec deux textes de Platon, deux en tout et pour tout, il n'y en a pas 50, il n'y en a que deux. Et comme ils ont été interprétés sans relâche, surinterprétés, triturés, opérés, réanimés, etc., sans aucun scrupule, sans aucune retenue, je ne vous raconte pas, c'est épouvantable ce qui leur est arrivé, c'est une torture constante, je propose de revenir tout simplement à eux dans leur forme originelle. Et sans eux, en effet, on ne parlerait pas de l'Atlantide. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien, de Platon, philosophe grec, qui dans les années 358-356 avant notre ère, c'est assez précis quand même comme datation, il se trouve dans la dernière période de sa vie, il entreprend la rédaction d'un vaste traité qui vise à retracer, excusez du peu, les origines de l'univers, les origines de l'homme, les origines de la société, et il découpe ce traité, comme il avait l'habitude de le faire, en dialogues. Trois dialogues qui portent les noms des personnages qui apparaissent là-dedans. D'abord le Timée, j'ai mis le nom de ce dialogue, le Timée nous est parvenu. Ensuite le Critias qui nous est parvenu, mais sous une forme probablement incomplète. Et à la fin, troisièmement, l'Hermocrate qui lui a complètement disparu dans la bagarre. Le Timée raconte, entre autres choses... Ah oui, alors là, c'est du grec. Bon. Mais c'est pour vous prouver que c'est vrai, quand même. Et j'ai mis en bleu les termes où il est question de l'océan Atlantique, de l'Atlantide, etc. Le Timée raconte, entre autres choses, la guerre qui a opposé autrefois Athènes à l'Atlantide, la victoire d'Athènes et la chute de l'Atlantide. Le personnage de Timée, qui est supposé être originaire de Locre, donc c'est en Grande-Grèce, sud de l'Italie, il s'adresse aux Athéniens, il leur dit ceci. « C'est de vos concitoyens d'il y a 9000 ans, effectivement le chiffre est là, que je vais vous découvrir brièvement les lois, et parmi leurs hauts faits, je vous dirai le plus beau qu'ils aient accompli. En effet, nos écrits rapportent comment votre cité, il n'est pas athénien lui, donc il s'adresse aux autres, aux Athéniens, votre cité anéantit jadis une puissance insolente qui envahissait à la fois toute l'Europe et toute l'Asie et se jetait sur elle du fond de la mer Atlantique. Hormis Thaïsan, etc. Bon, je vois que c'est facile à comprendre. Elle avait une île. Cette puissance devant ce passage que vous appelez aujourd'hui les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, et cette île était plus grande que la Libye. Ouais, attention, c'est pas exactement la même chose qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique en général, et l'Asie réunie, donc quelque chose d'énorme. Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé un empire, c'est une traduction hein, que je vous donne, là j'invente rien, un empire grand et merveilleux. Cet empire était maître de l'île tout entière et possédait aussi beaucoup d'autres îles et portions du continent. En outre, de notre côté, il tenait, il y a une petite répétition, la Libye jusqu'à l'Égypte et l'Europe jusqu'à la Tyrrhénie, c'est-à-dire l'Italie occidentale. Or, cette puissance, entreprit d'un seul élan d'asservir votre territoire et le nôtre, et tous ceux qui se trouvaient de ce côté-ci du détroit. C'est alors que la puissance de votre cité, donc Athènes, fit éclater aux yeux de tous son héroïsme et son énergie, car elle l'a emporté sur toutes les autres, bon la traduction est un petit peu ancien style, elle l'a emporté sur toutes les autres par la force d'âme et par l'art militaire. D'abord à la tête des Hellènes, puis seul par nécessité, abandonné par les autres, parvenu au péril suprême, voyez, on fait un éloge sérieux, hein, elle vainquit les envahisseurs, préserva de l'esclavage ceux qui n'avaient jamais été esclaves, et sans rancune, libéra tous les autres peuples. Mais dans le temps qui suivit, et c'est là qu'on touche le nœud de l'histoire, dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre effroyables et des cataclysmes. Dans l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, toute votre armée fut engloutie d'un seul coup sous la terre. On est dans la réalité ou dans quoi là? On peut se poser la question. Toute votre armée fut engloutie d'un seul coup dans la terre. Et là, on ne cherche pas l'armée. Personne n'a dit, il va falloir chercher où est-ce qu'elle a été engloutie, etc. Non, non, ça reste de côté tranquille. Hein. Et de même, je finis la phrase, l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Bon, voilà. Et donc là, c'est un récit qui est attribué à Critias, le vieux Critias, qui dit qu'il le tenait de Solon. Solon, ça se passe quand même entre 640 et 558 avant Jésus-Christ. Et Solon, dit-on, dit Platon, avait pu voir et traduire les antiques témoignages écrits, les textes sacrés que des prêtres égyptiens lui avaient montrés dans la bonne ville de Saïs, dans le delta occidental du Nil. Donc il y a toute une mise en condition historique là, de ça. Et puis il y a le Critias, bon ça c'est pour vous rappeler à quoi ressemble la Méditerranée, ça n'ajoute rien à ce que je dis. Il y a ensuite, bon ça on y viendra, dans le Critias, donc dans le deuxième dialogue, il y a une description de l'Atlantide qui complète largement ce qui a été dit dans le Timée. C'est Poséidon, donc le dieu Poséidon, qui lors de la répartition de la terre entre les dieux, reçut l'Atlantide en partage. Il fit des enceintes de terre et de mer, les unes alentour des autres. Il en fit deux de terre, trois de mer, donc on a une description. Il fit pousser sur la terre des plantes nourricières de toutes sortes, en suffisance. Et Platon décrit, alors là je passe sur tout le texte, Platon décrit en détail les richesses dont dispose cette île, des métaux, des bois, des animaux, l'éléphant, des fruits, etc. tout est, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que tout est superbe, tout est magnifique, tout est inépuisable. Et il décrit avec une extrême précision les temples, les palais, les ports, les routes, les canaux, les sanctuaires, les sources, les remparts, les champs, tout, et tout est magnifique. Tout s'embellit de génération en génération. Il y a une organisation civile et militaire qui est très efficace. Je cite, l'autorité des rois les uns sur les autres et leurs rapports étaient réglés d'après des décrets de Poséidon. Tiens, on aurait peut-être quelques leçons à prendre aujourd'hui. Respect, modération, solidarité, vertu étaient les clés de ce système. Un jour, cependant, les choses changent. Et là, je cite de nouveau, quand l'élément divin vint à diminuer en eux, les souverains, les maîtres, les rois, par l'effet du croisement répété avec de nombreux éléments mortels, quand domina le caractère humain, on dirait ça aujourd'hui avec des termes plus crus, ils se sont mis à frayer un peu avec n'importe quelles humaines, vous voyez, c'est le genre de choses qu'on dirait autrement. Alors, ils tombèrent dans l'indécence, tout gonflés qu'ils étaient d'injuste avidité et de puissance. Zeus, qui intervient quand même, enfin qui va intervenir, voulut leur appliquer un châtiment afin de les faire réfléchir et de les ramener à plus de modération. Et là, ça s'arrête. Le texte s'arrête. Ici, malheureusement, le texte s'interrompt et on peut simplement supposer que le châtiment qui avait été envisagé par Zeus, c'est celui dont il a été question dans le Timée. Mais on n'en a pas exactement la preuve. Donc voilà ce que dit Platon. Je ne l'ai pas trahi, j'ai repris des traductions qui en ont été faites et qui sont tout à fait justes, on peut vérifier sur le texte. Mais après, il reste à interpréter tout cela. Et ces textes ont donné lieu, dès l'Antiquité, à plusieurs sortes d'interprétations qu'on peut ramener, allez, simplifions un petit peu, faisons un peu de pédagogie facile, à quatre hypothèses principales. C'est celle que je vous indique là. L'hypothèse la plus lourde, on va dire entre guillemets, c'est qu'il reflète la vérité historique. Platon raconte une histoire vraie. Vous avez senti que... Ouais, bon. Moi, je ne sais pas, il en faudrait un peu plus pour me persuader. Mais bon, donc c'est l'hypothèse qui a été reprise depuis la Renaissance par la majorité des modernes. Et pour la majorité des modernes, le seul problème a été de localiser l'Atlantide. Pour eux, en effet, Platon a fait un récit historique. Et ce n'est pas compliqué, il suffit de suivre ce récit. Donc vous l'avez, les colonnes d'Hercule, machin, vous trouvez. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont fait ça tranquille. Une hypothèse un peu plus légère, mais pas vraiment différente, c'est de penser qu'il a transposé des faits réels. J'ai mis le nom d'Évémère de Mécène parce que c'est la référence à une doctrine précise de cette époque selon laquelle les histoires mythologiques étaient une transposition de faits réels. Les dieux étaient la transposition de rois, de personnages historiques, etc. Bon, peu importe. Mais donc, ce n'est pas très différent. Une troisième idée est qu'il s'agit d'une allégorie. C'est ce que pensent, j'ai mis ça entre parenthèses, beaucoup d'alexandrins, c'est les intellectuels qui vivaient à l'époque à Alexandrie, au IVe siècle et ensuite. Et pour eux, Platon, à travers l'histoire de l'Atlantide, a donné une image des vertus que l'âme, pas Athènes, hein, l'âme, doit déployer dans sa lutte contre la matière. Donc c'est l'âme qui a vaincu la matière, qui Athènes a vaincu l'Atlantide. C'est une transposition de cela. Et on pourrait parler à l'infini d'une lutte des étoiles et des planètes, des âmes entre elles ou des démons entre eux. Mais il y a eu toutes les interprétations possibles dans ce genre-là. L'hypothèse la plus légère, enfin, celle sur laquelle je m'attarde le plus, parce que je crois quand même qu'elle a des arguments pour elle, finalement, c'est qu'il s'agit d'une fiction pure et simple. C'est ce que dit Aristote. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré souvent, mais c'est le principal disciple de Platon. Et c'est lui qui, ensuite, a dominé la pensée sur l'Atlantide pendant tout le Moyen Âge, et pas seulement sur l'Atlantide, bon Dieu, hein, il y a aussi quand même toute la logique médiévale qui reposait sur ce qu'Aristote avait dit. Et je crois qu'en effet, on dirait qu'il était bien placé pour savoir, Aristote, il était le premier disciple de Platon, mais enfin, ça ne suffit pas non plus. Mais je crois quand même que c'est probable, si on considère non pas seulement le Timée, le premier dialogue qui invite en effet à chercher une localisation, on vous parle d'Atlantique, on parle des colonnes d'Hercule, on vous parle de l'Afrique, de l'Asie, etc. Vous dites là, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Je prends une carte et je trouve. Mais non. Et si vous prenez aussi le Critias, ce qui me paraît honnête, après tout quand même, Platon il s'est fatigué, il a écrit au moins deux textes, on doit au moins les prendre tous les deux. Et là, on a une description détaillée de l'Atlantide. Et si l'on considère ces textes, non pas dans l'absolu, mais dans le contexte général de l'œuvre de Platon, on arrive tout à fait à autre chose. C'est l'idée qu'avait proposée, j'ai mis un certain nombre de gens, c'est un palmarès, hein, des gens qui ont pensé des trucs intelligents là-dessus. Mais bon, en 1779, Giuseppe Bartoli, professeur à l'université de Turin, lui nous dit tout simplement qu'il faut chercher une solution à l'époque même de Platon. Et c'est en fait l'expédition de Sicile, une expédition à laquelle Athènes avait participé pour soutenir une des cités de Sicile contre d'autres cités. Et ce désastre qui date de 415 fait dire à Platon que la démesure incarnée par l'arrogance, par la maîtrise des mers, la folle ambition, etc., est à l'origine de la ruine de l'Atlantide, c'est-à-dire d'un certain visage d'Athènes. Mais qu'elle pourrait bien, aussi bien pareillement, lui être fatale, entendons, si Athènes s'obstine à reconstituer un empire maritime analogue à celui du siècle précédent. Et l'histoire vient précisément de donner raison à Platon, puisque Athènes est défaite par ses propres alliés en 357-355. Donc, ah oui, on parlait d'alliés, mais les alliés, quelquefois, on leur coupait la tête, hein, ou on leur faisait des trucs. C'était un mot conventionnel. Vous me direz qu'aujourd'hui, c'est pas. Non. Et derrière le conflit mythique entre Athènes et l'Atlantide se profilent donc, en fait, les conflits réels dans lesquels Athènes a été impliquée. L'Atlantide est donc une invention de Platon, et il n'est question dans ses textes que de son époque à lui, Platon, des Athéniens toujours, des Athéniens de tous côtés, répète Bartoli. Il a été ainsi le premier des modernes à comprendre que le texte du Critias propose une réflexion sur les causes de la décadence des États. Et à souligner la relation étroite aussi entre l'Atlantide et l'âge d'or sur laquelle je vais revenir. Si je parle de Giuseppe Bartoli, c'est parce que c'est justement très intéressant, bien sûr. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que personne ne l'a lu. Ce qui prouve que l'ère du temps, la mode, a une certaine importance dans ces choses, je crois. Mais là, il était complètement ignoré. Mais rassurez-vous, il y a des gens qui ont retrouvé ce qu'il disait. Donc Thomas-Henri Martin, qui publie en 1841, donc beaucoup plus tard, sa dissertation sur l'Atlantide, en introduction au texte de Platon, à une édition des textes de Platon, il retrouve à peu près les conclusions de Bartoli, sans le connaître. Ça, c'est fort quand même, hein. Et pour lui, je le cite, l'Atlantide appartient à un autre monde qui n'est pas dans le domaine de l'espace, mais dans celui de la pensée. Ça va être un peu plus dur à suivre. Et c'est bien sûr cette hypothèse de la fiction qui a la faveur des hellénistes aujourd'hui. Bon, je les ai cités dans mon petit palmarès, mais je n'ai cité que des spécialistes de Platon quand même, et en faisant remarquer qu'ils sont à peu près tous d'accord. Soit philologue, soit plutôt historien, comme Pierre Vidal-Naquet. Et pour eux, c'est clair, la cause est entendue. Il s'agit d'un mythe vraisemblable qui illustre la pensée, qui sert de véhicule à la pensée de Platon, qui l'exprime, disons, de façon plus frappante que ne le ferait un exposé trop sérieux. Platon avait esquissé ses idées sur la mesure et la démesure ailleurs, sur la morale en général aussi, mais elles sont ici mises en scène dans un cadre qui donne à sa théorie une expression plus concrète. Donc il ne s'agit pas, et là il faut faire attention au sens que l'on donne au mot de mythe, il ne s'agit pas d'un mythe mythologique, absolument pas, à aucun moment, mais d'un mythe nouveau, forgé par Platon, c'était bien son droit, quoi, bon sang, enfin, pour étoffer un pamphlet polémique dirigé contre l'impérialisme de sa cité. Un pamphlet écrit en temps de guerre. Vous voyez un peu les résonances qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Et Vidal-Naquet dit de façon tout aussi lapidaire, l'Atlantide et Athènes, ce sont les deux faces de l'Athènes de Platon. Les deux faces. Donc, l'Atlantide se situe, je crois qu'on peut conclure ça dès maintenant, en dehors de toute réalité historique. Elle relève bien plus de l'histoire des idées que de l'archéologie. Bon, c'est dommage pour moi, tant pis. Ou de l'histoire. On sait au fond très bien, aujourd'hui, quoi en penser. Et je crois qu'il n'y a aucun intérêt à chercher à la localiser. Il y a même un de ces hellénistes, je ne sais plus lequel, qui a dit que cette recherche de l'Atlantide avait été une des plus grandes catastrophes historiques qui puissent arriver. Catastrophe de la recherche historique. Et je crois, simplement l'Atlantide résiste. Et c'est là qu'on doit entrer dans d'autres considérations. Elle résiste. Pendant longtemps, bon, on n'en a plus parlé pendant la fin de l'Antiquité, le Moyen-Âge, on s'en tient à Aristote, pour qui l'Atlantide est une invention de Platon, d'accord. Et puis il y a la découverte de l'Amérique, qui sert de véritable déclencheur. En 1527, Bartolomé de Las Casas, que vous connaissez peut-être par ailleurs comme défenseur des Indiens à ce moment-là, c'est pas n'importe qui, il évoque l'Atlantide et il la voit comme une sorte de pont transatlantique entre l'Europe et l'Amérique. En 1553, un historien espagnol, Francisco López de Gomara, assimile, lui, l'Atlantide au Nouveau Monde, cette fois l'Amérique, et il rapproche la légendaire Aztlán des Aztèques du nom du continent disparu. Je vous ai mis un titre d'un bouquin qui rappelle cette stupidité, mais bon, c'est pas grave. Pour eux, donc, pour ces gens et pour bien d'autres, la localisation de l'Atlantide dans le Nouveau Monde est une solution extrêmement pratique pour expliquer en particulier la présence de populations humaines en Amérique. On va là-bas et on trouve des gens. D'où sortent ces gens? On ne les attend pas, on ne savait pas qu'il y avait des gens. Qu'est-ce qu'il faut de temps? Bon, et on dit, c'est assez facile à imaginer, mais c'est des survivants du désastre. L'Atlantide a disparu, elle a été noyée, mais il y a des gens qui, quand même, ont sauvé leur peau, ont survécu. Si vous rappelez le texte de Platon, il n'y a pas un mot là-dessus. C'est un truc qui a été ajouté complètement après. Mais c'est plus tard, c'est au XVIIIe siècle que les divagations géographiques et les localisations fantaisistes se multiplient. Et là, l'île mystérieuse, hein, il ne faut jamais oublier de dire mystérieuse, c'est important, est bientôt située à peu près partout dans le monde. Alors, en Palestine, en Attique, en Sardaigne, en Islande, aux Açores, au Spitzberg, etc., etc. Et il s'agit toujours de spéculations, elles ont toujours la même forme. Ce sont des spéculations pures que l'on ne cherche à étayer par aucune réalité. Il n'y a pas d'argument. Les gens disent, dans mon idée, je pense que ça pourrait être là, c'est tout. Et d'autres, qui ne sont pas d'accord, les réfutent avec le plus grand sérieux. Je me contente aujourd'hui d'évoquer deux de ces localisations parmi les plus tentantes. Et j'oublie les autres, hein, je laisse tomber l'Afrique, les Bermudes, les Bahamas, on peut en parler après si vous voulez, il y en a des quantités. Là, on est d'abord devant les colonnes d'Hercule, parce que les textes même de Platon, qui situaient l'Atlantide devant les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire à l'ouest du détroit de Gibraltar, invitaient depuis toujours à chercher l'île dans l'océan. C'est une thèse qui survit à travers les siècles, et c'est celle qu'exprime en particulier Ignatius Donnelly dans un livre « Atlantis, the Antediluvian World », qui connaît un très grand succès en 1882. Et j'insiste un tout petit peu sur l'auteur, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est rarement n'importe qui, ces gens. C'est un homme politique républicain. C'est aussi un érudit. C'est aussi un lecteur infatigable. Enfin, il a fait des tas de choses dans sa vie. Il a été gouverneur de je ne sais plus quel État, etc. Enfin, bon, bref. Et il relève les similitudes, des similitudes entre les cultures de l'Ancien Monde et les cultures du Nouveau Monde, en particulier entre les pyramides d'Égypte et celles d'Amérique centrale. Vous avez bien lu ça, quand même, quelque part, dans un truc de vulgarisation. Ça revient tout le temps. On ne peut plus faire. Bon, bref. Il estime qu'elles ne peuvent qu'avoir une origine commune et donc provenir du continent disparu, et en particulier lui aussi, il accroche le wagon des survivants du désastre. Pour lui, l'île engloutie se trouve donc sans aucun doute dans l'Atlantide, loin à l'ouest de Gibraltar. Et il contribue très fortement à accréditer la thèse d'une localisation dans l'Atlantique. Donc il n'y a pas à s'étonner que le livre, je suis sûr que vous l'avez tous lu, hein. Il n'y a pas à s'étonner que le livre ait été réédité tout au long du XXe siècle. Hein. Ça marche très bien, ce genre de choses. Et alors que les historiens se tiennent bien dans cette période et bien à l'écart du débat, des géographes et des géologues commencent à intervenir, mais ils ne disent pas vraiment autre chose que Donnelly. Et c'est assez caractéristique, ça aussi. Donc on a Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, ce sont des gens qui, par ailleurs, sont connus dans la recherche historique, expédition de Morée, etc. Un officier naturaliste et cartographe qui situe l'Atlantide aux Canaries en 1803. Et puis un géologue, Pierre Termier, qui, grand spécialiste de la tectonique des Alpes, c'était un peu à côté. Publie une série d'articles sur le sujet entre 1911 et 1913. Et il estime que, géologiquement parlant, il n'y a pas de problème. L'existence préhistorique d'une Atlantide est extrêmement vraisemblable. Il la situe vers les Açores, Madère, les Canaries, les îles du Cap-Vert, où vous voudrez. L'effondrement au quaternaire récent du dernier débris de cet ensemble s'accorderait bien avec la date indiquée par Platon. Beaucoup plus près de nous, en 2001, un autre géologue professionnel, Jacques Collina Girard, propose de localiser l'Atlantide dans le détroit même de Gibraltar, plus précisément près du Cap Spartel, à l'ouest de Tanger. Il a en effet repéré là un haut fond qui se trouve à la sortie ouest du détroit et qui a été submergé vers 9000 avant Jésus-Christ. Pour lui, tout concorderait donc avec le texte de Platon. Bon, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais en tout cas, il est tranquille. L'hypothèse égéenne, ensuite, bon, c'est la Crète et Santorin, ça, tout le monde a lu ça, je pense, d'une certaine manière. L'idée d'une Atlantide à Terra, vous le voyez au milieu de la carte, Terra ou Santorin, et en Crète, ou en Crète, non, on ne va pas distinguer les choses, c'est une idée qui est apparue dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est pas quelque chose de récent. Elle a été reformulée vers 1909-1910, et ce qui est significatif, je reviens toujours à l'histoire, je ne peux pas faire autrement, mais je crois qu'il faut, on manque d'histoire. On est juste après le début des fouilles d'Evans, Arthur Evans, à Knossos. Il a commencé en 1900, et il est clair que ce qu'il révèle là, l'archéologie minoenne telle qu'il la fabrique, disons, elle fascine les esprits, elle fascine les esprits de tout le monde, d'égyptologues, etc. Cependant, c'est à l'archéologue grec Spyridon Marinatos que on doit plus tard la véritable fondation de l'Atlantide minoenne, ou plutôt terréenne. Plus de 25 ans après, lui, il est frappé par des choses qui sont connues des gens qui travaillent dans ces coins-là, par les destructions qu'il observe en Crète et par les manifestations du volcanisme dans le monde égéen actuel, où il y a eu des éruptions en effet, ainsi que par l'éruption du Krakatoa en Asie du Sud-Est. Et il se convainc dès 1934 que la civilisation minoenne, donc la civilisation de la Crète à l'âge du bronze, a été détruite par la grande éruption du volcan de Terra au deuxième millénaire avant notre ère. Et il publie sa théorie en 1939. Il ne parle pas encore de l'Atlantide. L'éditeur de la revue a droit à notre reconnaissance éternelle parce qu'il a accompagné la réception de l'article d'une petite note disant: je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'écrit M. Marinatos. Mais comme il le signe, tant pis pour lui. Après la guerre, l'idée de l'Atlantide s'impose à lui. Mais elle s'impose à lui, je veux dire, je traduis ce qu'il écrit, j'ai lu, c'était pas toujours drôle, mais j'ai lu ce qu'il écrit. Et donc pour lui, l'éruption de Terra serait à l'origine du mythe. Et c'est ce qui, aujourd'hui encore, est dans la tête de beaucoup de gens, à force de répétition. Demandez-vous pourquoi cette idée est encore dans notre tête, dans la mienne aussi, parce qu'on la répète tous les quatre matins. Donc il est convaincu, Marinatos, que Platon n'a pas pu inventer les événements qui ont donné naissance à ce mythe, qu'un tel cataclysme a forcément laissé des traces profondes dans la mémoire des peuples. Il suppose que les Égyptiens ont dû apprendre qu'une île lointaine avait été engloutie par la mer, qu'ils ont dû entendre parler de périodes où le soleil était resté voilé. C'est ce que vous retrouvez dans tous les périodiques qui reviennent tous les quatre matins. Il y a eu des pluies de sang, des émissions de gaz toxiques, des raz de marée, et ils ont constaté l'interruption des relations avec la Crète causée par la destruction de la flotte minoenne. Comme ils ne devaient pas beaucoup distinguer de loin entre Santorin et la Crète, ils ont dû supposer que c'était la Crète qui avait été engloutie. Donc très tôt, en 1950, Marinatos a en main et il nous propose un tableau complet, convaincant, apocalyptique, des bouleversements du milieu du deuxième millénaire avant notre ère, mais aux yeux des historiens, aux yeux de beaucoup d'historiens, à ce moment-là, la question reste totalement ouverte. Une quinzaine d'années plus tard, pourtant, la situation change complètement. Marinatos est devenu alors une des figures dominantes de l'archéologie grecque, de l'archéologie du monde égéen. L'histoire. Pourquoi ? Comment, à cette époque-là ? Ben, c'est tout simple, il est devenu, il était un soutien ferme des colonels. 21 avril 1967, ce coup d'État qui a marqué nos esprits, bien sûr. Et lui, eh bien, il est devenu directeur du service archéologique grec. Vous croyez qu'il y a des... Bon, bref. Et donc, il peut réaliser son vieux rêve et commencer à fouiller à Terra, même sur le site d'Akrotiri, qui est marqué par une flèche. Akrotiri, vous n'en faites pas, ça veut dire le Cap, la moitié du pays s'appelle Akrotiri. Et ce qu'il y redécouvre immédiatement, là aussi l'histoire, on savait ce qu'il y avait. C'était depuis la fin du 19e siècle qu'on le savait, mais tout le monde s'en foutait. On ne l'avait pas lu. Il y avait un géologue français, Fouquet, qui avait trouvé des tas de choses exactement semblables. Mais Fouquet, il est tombé côté Académie des sciences. Donc ça n'a pas marché. Les archéologues ne se sont pas intéressés à son boulot. Mais il avait déjà, on pouvait dire qu'il y avait déjà une ville ensevelie par l'éruption, ensevelie sous la cendre. Donc c'est pourquoi je dis Marinatos a redécouvert. C'est méchant de dire ça, mais c'est quand même bon sens, c'est quand même la vérité. Et donc les traces d'une civilisation très brillante, ensevelie sous la cendre, et les images de cette civilisation, je crois que j'en ai quand même, il ne faut pas que je vous frustre, les images ont fait tout aussitôt le tour du monde, et elles donnaient l'impression qu'il y avait une confirmation éclatante, donc matérielle. Il y avait des... Regardez ces maisons, ces murs quand même conservés sur deux niveaux, et c'était une confirmation irréfutable à sa théorie. Et en l'espace de 2 ans, cette théorie a connu un véritable triomphe, et Marinatos aussi avec lui un véritable triomphe. Les médias, il faut s'en méfier quelquefois, vous savez, les médias proclament à l'envi, en répétition, c'est pour eux qu'on a inventé le terme de psittacisme, répétition comme les perroquets, vous savez, cette maladie qui fait qu'on répète tout le temps la même chose. Le plus connu des malades, c'est le New York Times, qui écrit le 8 octobre 1972, la question de l'Atlantide est enfin résolue. Donc de là jusqu'en 1978, la popularité de cette Atlantide est à son sommet. Une alternative sérieuse a enfin été trouvée à toutes les autres localisations proposées. J'en ai encore une peut-être. Ah oui, c'est quand même pas mal ça aussi. Bon. Mais par la suite, la théorie perd du terrain. 1974, si vous vous souvenez, hein, l'affaire de Chypre, la chute des colonels, 1974. Eh bien là, ceux qui n'étaient pas d'accord parmi les collègues se sont exprimés. Ils ont commencé à s'exprimer. Jusque-là, ils disaient, oui, on ne peut pas dire le contraire. Enfin, on est obligé de dire comme lui. Mais oui, mais c'est l'exacte vérité. J'ai connu cette période, c'est pourquoi je vous dis, c'est pas une blague, il y avait des archéologues qui étaient arrêtés à la frontière parce qu'ils avaient des opinions qui ne plaisaient pas au gouvernement. Donc là, c'est la même chose. Des gens qui avaient des opinions qui ne plaisaient pas à Marinatos ont été priés d'évacuer la fouille. Ça ne les a pas empêchés après de faire une carrière, d'accord. Mais enfin bon, et surtout, il s'est passé autre chose qui était encore plus cruelle, c'est qu'on s'est rendu compte que la civilisation minoenne, qui faisait l'objet de la discussion, ne pouvait pas avoir été détruite par l'éruption du volcan de Santorin, parce que l'éruption est nettement antérieure. Ah bon ? Moi, ça m'embête, ça. Et donc, il y a là des gens qui se sont mis à écrire des livres, mais on se demande où ils avaient la tête. Dire, oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est antérieur. Je ne raconte pas, c'est démontré par une stratigraphie, une succession de couches dans lesquelles on a parfois les traces de l'éruption, puis la destruction plus tard, un mètre plus tard, j'allais dire, ou des trucs comme ça. Bon. Et il y a des gens qui ont résisté en disant « Oui, mais ça a quand même dû secouer les choses. Hein. Peut-être que ça, c'est possible que ça a secoué une civilisation. » Mais on ne connaît pratiquement pas d'exemple. Vous croyez que Pompéi, ça a foutu en l'air, par exemple, l'Empire romain ? Bon. Je ne pense pas. Hein. C'est pas genre, les gens reviennent, la vie continue, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en même temps, ça a déglingué, si vous voulez, désingué dans le monde savant la partie atlantidienne de la théorie de Marinatos. Et on n'en a plus entendu parler. Au fond, ce n'était pas une réponse à cette idée non plus, c'était autre chose. Donc il a révélé au monde, et il faut le retenir, une civilisation... très brillante, dont on a eu à partir de là une image beaucoup plus complète et beaucoup plus directe, civilisation qui avait été découverte dans les années 1870. Pourquoi le mythe de l'Atlantide est-il si résistant et si prolifique ? Une des raisons les plus évidentes pour moi, c'est qu'il se rattache à un ensemble plus vaste qui est celui des paradis perdus et des âges d'or. Le mythe de l'âge d'or, parmi les mythes d'origine, alors on pourrait parler avec des anthropologues, c'est l'un des plus répandus et il fonctionne évidemment comme une compensation au présent. Il s'appuie sur la nostalgie d'un passé révolu, idéalisé, où l'homme avait, dit-on, là c'est dans les termes antiques, accès au monde divin, accès au savoir, accès au bonheur. Et sous la version moderne, c'est le bon vieux temps. Hein, c'est ce qu'on se raconte au bistrot quand on en a marre des malheurs du jour. On se dit « Ah, c'était quand même beaucoup mieux autrefois, c'était pas comme maintenant. » Bref. Et on rencontre ce mythe du bon vieux temps, du paradis perdu, de tout ce que vous voulez, sous deux versions principales. L'une, c'est celle de l'Atlantide, et l'autre, c'est celle du paradis perdu. Et elles se trouvent liées de cette façon, indissolublement. Alors là, j'ai cité quelques individus pour prouver que la chose n'appartenait pas en réalité à Platon. On trouve des traces très, très claires, bien avant Platon, de ces histoires-là, et déjà chez Homère, dans l'Odyssée, le pays où aborde Ulysse et où il rencontre Nausicaa, la douce Nausicaa, c'est le pays qui s'appelle la Phéacie, qu'on ne sait pas très bien localiser, évidemment, c'est de la poésie. Mais en tout cas, c'est sans doute une des incarnations les plus anciennes de cet âge d'or. C'est en tout cas un paradis au sens ancien du terme, c'est-à-dire un jardin qui produit hiver comme été, où le potager est vert en toute saison, j'aimerais bien ça, mais je n'y arrive pas, où la laine de Zéphyr souffle sans relâche, selon une formule qui est déjà consacrée. Et les poètes postérieurs à Homère recyclent ce mythe en le situant aux origines de l'humanité. Et ils font suivre cette période idéale, normalement, d'une décadence. Et c'est ainsi qu'au 8e siècle, Hésiode parle d'un âge d'or, plus exactement d'une race d'or, qui vivait dans la paix, le bonheur, la jeunesse, l'abondance, je cite, « tous les biens étaient à eux. Le sol fécond produisait de lui-même une abondante et généreuse récolte, et eux, dans la joie et la paix, vivaient de leurs champs au milieu de biens sans nombre. Et cette race d'or a été suivie d'une race d'argent, d'une race de bronze et d'une race de fer. Et donc il oppose un temps jadis où les hommes vivaient comme des dieux, connaissaient un bonheur parfait, acceptaient la loi du travail et rejetaient aussi les activités guerrières à un présent, il oppose ça à un présent, où ils sont accablés de maux. Donc 400 ans avant Platon. 400 ans avant Platon, il oppose deux grands principes que je vous ai remis en grec et en français. Celui du droit, du respect, diké, et son contraire, hubris ou hybris, la méchanceté, le crime, la démesure plus exactement, et l'opposition que mettra en scène Platon sous les traits d'Athènes et de l'Atlantide est un lieu commun 400 ans avant lui. Voilà ce qu'il faut quand même retenir une fois qu'on met les choses un petit peu en perspective. Plus tard, bon, les poètes latins reprennent toutes ces choses, et Ovid en particulier, dans son long poème intitulé « Les métamorphoses », évoque en termes très suggestifs, comme s'il y avait été, un âge d'or, c'est lui qui crée l'expression que j'ai reprise là, âge d'or, aurea etas, où le printemps était éternel, où les paisibles zéphyrs caressaient de leurs tièdes haleines les fleurs nées sans semences. Ah, c'est bien mal ça. Où tout n'était que paix, fleurs, fruits et moissons. Puis la vie errante des hommes à la période suivante, évidemment, ça se détériore ensuite. Et ces fleurs et ces fruits, chez Ovid, font un écho saisissant au terme même de Platon à propos de l'Atlantide. Tous ces fruits-là, là c'est Platon, l'île les donnait, vigoureux, superbes, magnifiques, en quantité inépuisable. L'âge d'or est maintenant ancré dans l'imaginaire occidental. C'est un beau baptême. Et puis, bon, après il y a une explication de peu importe. Il y a aussi les grandes découvertes qui viennent donner une autre dimension, une nouvelle vie à ces mythes conjoints de l'Atlantide et du paradis. Ils motivent la quête. On envoie des gens chercher cela. Et ils expliquent les réalités exotiques et nouvelles que l'on rencontre. Ils s'incarnent d'une façon toute naturelle dans ce qu'on a appelé le Nouveau Monde. Et il s'agit, dans la première moitié du XVIe siècle, d'une véritable fascination. Christophe Colomb, le premier, s'élance à la recherche de l'Asie et de la Chine en partant vers l'Ouest. Mais ce qui lui tient le plus à cœur, c'est la recherche du paradis terrestre, associé à de vagues réminiscences de l'Atlantide. Ce n'est pas fondamentalement un chercheur d'Atlantide, mais enfin, il s'y est mis aussi. Et il croit l'avoir trouvé, ce paradis, aux Indes occidentales. Vous allez voir pourquoi les habitants de cette terre n'éprouvent aucune honte à être presque nus, comme Adam et Ève, suffisait d'y penser. Ils échangent volontiers de l'or contre des marchandises de faible valeur, comme si le matérialisme tant dénoncé par le christianisme ne les avait pas atteints. Et de surcroît, quand Colomb pénètre dans l'estuaire de l'Orénoque lors de son troisième voyage, 1498, il constate que les eaux douces s'avancent très loin dans la mer. C'est ce que savent aujourd'hui les océanographes, etc. C'est le signe, dit-il, que l'on se trouve en présence de l'un des quatre fleuves de l'Éden. Que l'on note également qu'en s'approchant de ces terres, les navires s'élèvent doucement vers le ciel et on jouit d'une plus douce tempérance. Signe, enfin tempérance, je veux dire climat, etc. Signe que l'on touche de près le paradis terrestre. Il regrette, il y a un bémol. Il regrette seulement que les indigènes ne comprennent pas l'hébreu. Ils s'engageaient en effet, ils s'attendaient plutôt à trouver là les descendants des 10 tribus perdues du royaume d'Israël. Et il avait engagé, c'est une anecdote qui vaut son pesant de patates douces, disons, il avait engagé Luis de Torres, un juif tout juste converti au catholicisme, pour servir d'interprète. Mais manque de peau, les gens ne parlaient pas l'hébreu. Amerigo Vespucci, ensuite, qui donnera évidemment son nom au continent, ou son prénom, n'est pas en reste. Il s'extasie sur les Indiens en disant ils n'ont de vêtements, ni de laine, ni de lin, ni de coton, car ils n'en ont aucun besoin. Et il n'y a chez eux aucun patrimoine. Tous les biens sont communs à tous. Ils vivent sans roi, ni gouverneur, et chacun est à lui-même son propre maître. Ils ont autant d'épouses qu'il leur plaît. Que puis-je dire de plus ? Ils vivent selon la nature. Et c'est ce qu'ensuite des gens comme Montaigne et Rousseau ont repris. Montaigne, lorsqu'il rédige le premier livre des Essais, ne pense pas que le Nouveau Monde soit l'Atlantide. C'est trop loin des colonnes d'Hercule. Mais les populations de ce Nouveau Monde, en particulier les Tupinambas du Brésil, vivent en harmonie avec la nature et connaissent une sorte d'âge d'or. Et là, il faut se rappeler ce qu'il dit. Il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Nous les pouvons bien appeler barbares eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbaries. Méditons un instant. Cette défense du relativisme culturel et cette apologie de la tolérance qui forment le cœur des essais constituent le second acte de naissance du mythe du bon sauvage, lequel est supposé, bien sûr, vivre un véritable âge d'or. Deux siècles plus tard, alors on a Rousseau qui formule avec vigueur l'explication qui, selon lui, rend compte de l'opposition entre eux et nous, c'est la vie en société qui est la source de tous les maux. Alors que la nature a fait l'homme heureux et bon, c'est la société qui le déprave et qui le rend misérable. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, dit-il, tout dégénère entre les mains des hommes. La raison en est simple, les hommes ne sont point faits pour être entassés en fourmilière. Ah oui, bon. Mais épars sur la terre qu'ils doivent cultiver. Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent. Désormais, le mythe du bon sauvage est pourvu de trois actes de naissance. Il est fondé sur un raisonnement sans nuance, armé d'une morale qui a réponse à tout. Il va traverser les siècles et connaître une fortune inépuisable, inspirant. Bon, là, je passe, hein, inspirant. Ah, Jérôme Bosch, il faut aller voir l'exposition qui s'ouvre à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, et qui rassemble pour la première fois la grande majorité de ses œuvres. Donc, et puis Cranach aussi. Bon, toutes ces idées sur le bon sauvage ont inspiré sociologues, pédagogues, écologistes, et en particulier aujourd'hui, l'idée que l'homme a gâché le paradis par ses prétentions et ses imprudences. C'est une idée caractéristique du discours écologiste. Ah bon ? Moi, je l'entends comme ça. J'entends Platon. Elle renoue de façon, pour moi, extrêmement frappante avec le moralisme de Platon. C'est pas bien d'avoir fait ça. Bon, alors, faut-il tuer les mythes ? Si j'ai encore 5 minutes, je vais essayer de désinguer quelques-uns. On se rend compte, peu à peu, vous en rendez bien compte aussi, qu'on ne peut pas tuer les mythes, car ils ont la vie bien trop dure. Et c'est le point sur lequel je me sépare complètement de nos grands prédécesseurs comme Paul Venn ou Pierre Vidal-Naquet. Paul Venn qui vient de publier un livre sur Palmyre, hein, après la destruction de Palmyre, regardez ça quand même, c'est une défense de l'archéologie contre la... Bon. Paul Venn dit que ce sont les gens qui ont inventé les histoires sur l'Atlantide, ce sont des cervelles fêlées qui s'excitent sur l'Atlantide ou découvre sur l'île de Pâques des monuments érigés par des extraterrestres. Bon, très bien. Et Vidal-Naquet dit, dans le même genre, qu'on est dans le temps des imposteurs, des charlatans et des escrocs. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait toutes ces bêtises là-dessus, parce que ces gens sont des imposteurs ou des idiots. Mais non, non, je ne suis pas d'accord. Pas pour dire que Venn ou Vidal-Naquet ont tort, c'est pas la question, mais tout simplement parce que très tôt, je vous l'ai dit au passage, ce sont de très grands savants qui se sont aventurés dans ces spéculations. Ça ne signifie pas qu'ils aient eu raison, c'est une autre question complètement différente, mais ça veut dire qu'on ne peut pas simplement les traiter par le mépris. Et puis aussi parce que, de nos jours, un grand nombre de gens croient encore à l'Atlantide. Qui y croit parmi vous ? Voilà. 41% des Américains croient qu'elle a existé et qu'elle a connu une civilisation extrêmement brillante. Et on est obligé de prendre ça comme un fait. Non pas sur l'Atlantide elle-même, évidemment, mais sur la vitalité du mythe. Et de toute façon, les mythes sont partout, c'est pas la peine de se cacher, de se voiler la face. Notre société moderne où la technologie, non, j'ai pas dit la science, hein, la technologie règne partout sans partage, notre société en fabrique tous les jours. Mythe de l'égalité, de la sécurité, c'est très très fort, de la vitesse, de la jeunesse, de la convivialité, de la nature et de l'authentique. Aucune société ne vit sans se créer des mythes. Mais ce qu'il faut que je vous fasse comprendre, c'est que ces mythes finissent par avoir leur vie propre. Et dans le cas de celui de l'Atlantide, on peut suivre assez facilement les expressions qui en ont été données et les utilisations qui en ont été faites. Au début du XVIIe siècle, ce mythe servait de véhicule aux idées nouvelles et à l'audace intellectuelle, à la science, au juste gouvernement. Aujourd'hui, il sert plutôt de support au mystère, à l'aventure et aussi à l'irrationnel et à la confusion intellectuelle, parfois même aux idéologies racistes. Les mythes, bon, vous avez eu la conférence sur l'utopie de Thomas More. Il y a eu un autre, les chanceliers d'Angleterre étaient spécialisés là-dedans. Il y en a un autre qui s'appelait Francis Bacon, pas le peintre, bien sûr, mais un autre. Vers 1724, il a écrit une nouvelle Atlantide où il montre des voyageurs en détresse atterrissant sur une île inconnue des mers du Sud, ou un collège qui s'appelle Ben Salem, Maison de Salomon, se consacre dans d'innombrables laboratoires, c'est une préfiguration du campus Condorcet, ça va de soi, se consacre au progrès des sciences et à la diffusion du savoir, et on découvre à cette occasion ce que Bacon met en scène, un nouveau mode de pensée, en même temps qu'un nouveau monde au sens propre du terme. Un nouveau mode de pensée, il ne faut pas prendre ça à la légère, à ce moment-là, les idées de Francis Bacon sont celles qui seront reprises plus tard par Descartes et par Claude Bernard. C'est-à-dire, c'est la première expression historique de la méthode scientifique. Mais bon, c'est une autre question. L'enseignement pacifiste de Platon est remis au goût du jour par des modernes en fonction des circonstances. Jules Verne, par exemple, dans les 500 millions de la Bégome, 1879, hein, toujours revenir à l'histoire, il met en scène la rivalité franco-allemande à travers deux villes qui sont complètement différentes. Une cité française qui s'appelle Franceville, cité idéale naturellement, qui a été fondée par un humaniste. Et puis, du côté allemand, une Stahlstadt, la ville de cité-usine, ville de l'acier, qui a été fondée par un militariste allemand, qui ne rêve que de produire des armes et au bout du compte de détruire Franceville. Et là, il est clair que l'auteur s'inspire de l'opposition platonicienne entre l'Atlantide et l'Athènes primitive, et jusque dans la morale de l'histoire, puisque finalement les visées agressives de Stahlstadt échouent, et la pacifique Franceville l'emporte, on est content, hein, parce que quand même, là, bon. Je vous passe René Barjavel, peut-être vous l'avez lu, mais lui aussi il fait ça. Les mythes, ça sert également aussi à distraire, ça va de soi. Juste un mot pour évoquer Pierre Benoît, qui a toujours un rapport précis, là aussi, avec l'histoire. On est en 1919. Deux officiers perdus dans le Sahara finissent par arriver... Bon, pardon. Ça, c'était une vue de un livre. De... Bon. Oui, Pierre, c'est bien, hein, ça. Deux officiers perdus dans le Sahara finissent par arriver au cœur du Hogar, jusque au fabuleux palais d'Antinéa, l'impératrice de l'Atlantide, dont ils sont les captifs. C'est un roman colonial, bien sûr, qui rappelle que Pierre Benoît a passé sa jeunesse en Afrique du Nord, mais c'est aussi un roman qui délivre les gens de l'ambiance de la guerre. Et l'auteur lui-même en a bien conscience. Il n'a pas prétendu avoir écrit un bouquin absolument génial. Il a prétendu tout simplement que tout le monde s'était précipité là-dessus parce qu'on sortait de la guerre. Et il y a rajouté en plus un ingrédient, la femme fatale qui hypnotise les hommes et conduit ses amants à la mort, etc. Il a fixé ça sur le mythe de l'Atlantide. Et cette combinaison sera ensuite méthodiquement exploitée par le cinéma et par la bande dessinée. Et comme Jules Verne, il s'amuse à multiplier les épisodes et ça fait partie du plaisir qui est offert au lecteur que l'on conduit, hein, de cette façon progressivement jusqu'à l'oasis merveilleuse. Il faut quand même que je prenne encore 5 minutes pour vous parler de... Il y a aussi l'Atlantique d'Edgar Jacobs, il y a aussi tout ça. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé le plus récemment. Les mythes servent à construire une identité, à souder une communauté. On l'a dit à propos de la résistance. On l'a dit, bon. Une romancière de premier plan dit ceci. Tous les peuples ont besoin de héros pour ne pas être écrasés, méprisés, pour pouvoir résister. Mais si légendes et épopées deviennent l'opium du peuple et des dirigeants, la révolte vire à l'oppression. Légendes et épopées se teignent de sang. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie. Je ne sais pas si ça fait figure de révélation pour vous, mais l'Atlantide a servi à illustrer l'idéologie raciste. Simplement, une fois de plus, retour à l'histoire, il faut réaliser que les nazis n'ont rien inventé. Retour au XIVe siècle, en Suède, beaucoup de gens souscrivent à ce qu'on a appelé le patriotisme gothique ou le gothicisme. La patrie originelle des Goths est la Suède. Et on est après la guerre de 30 ans, et la Suède devient une grande puissance. Et en 1675, un personnage que vous voyez là, qui s'appelle Olof Rudbeck, propose de situer l'Atlantide justement en Suède, et sa capitale près d'Uppsala, où il enseigne. Ah bon ? Bon, c'était une idée. Hein. Et il consacre 4 gros volumes à démontrer que la Suède aurait été le berceau de la civilisation et le suédois, la langue originelle d'Adam. Alors là, vous voyez ma perplexité. On serait tenté de dire que ce type, il avait un grain, qu'il était un peu fada, etc. Mais non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est un savant exceptionnel qui connaissait tout de la science de son temps. Il était naturaliste, il était professeur de médecine à l'université d'Uppsala. Il a fait construire dans cette université un amphithéâtre d'anatomie que vous pouvez visiter si vous allez jusque là-bas. C'est lui qui a découvert le système lymphatique et c'est lui qui a fait connaître en Suède la pensée de Descartes. Sans parler que Linné lui a dédicacé le nom d'une plante, Rudbeckia. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une plante qui a été nommée d'après lui. Donc, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas un fou, c'est le contraire. Et c'est ce qui explique son hypothèse. Lorsqu'il dit cela, il ne fait qu'exprimer ce que beaucoup de gens pensaient depuis longtemps. Les choses ne sont pas du tout aussi simples qu'on pourrait être tenté de le croire. Et en Allemagne, la légende de l'Atlantide, comme bien d'autres, va en quelque sorte se teinter de sang. Dès avant la Première Guerre mondiale, toujours les dates. Et surtout dans les années ensuite, 1920-1930, dans l'Allemagne vaincue, il y a toute une littérature nationaliste et revancharde qui prêche le retour aux valeurs spirituelles qui étaient incarnées par les îles de Thulé, par l'Atlantide et le pan-germanisme. Et l'idéologie de la race aryenne se greffe ainsi sur le mythe de Platon. On lit avec ferveur un livre qui s'appelle « La doctrine secrète ». Il y a des échos dans le complotisme d'aujourd'hui. Hein. Elena Blavatsky était théosophe, spirite, etc. Elle situe l'origine de la race aryenne dans l'Atlantide, civilisation fabuleuse qui connut des sommets de perfection sociale et technique. Elle inspire parmi d'autres Adolf Josef Lanz. Illustre inconnu, mais vous allez voir quand même qu'il mérite de sortir de l'oubli. Il a développé très tôt des théories sur la blondeur des peuples aryens. Il a fondé une revue raciste et eugéniste, Ostara, magazine des hommes blonds et virils. Si vous voulez, je vous le dis en allemand. Et il est probable que le jeune Adolf est un lecteur assidu de cette revue. On n'a pas fait la preuve pour l'instant, mais c'est probable. Et ce que propose ce monsieur, Lanz, c'est tout simplement de stériliser les malades et les races inférieures. Quel bon programme! On est entre, c'est toujours la date qui fait peur, entre 1894 et 1905. Et là, franchement, il y a de quoi frémir. Après, toutes les théories du XXe siècle sur l'Atlantide sont pratiquement tout de suite contaminées par l'idéologie nationale socialiste. Il y a un livre de Schetch, c'est difficile à prononcer là, qui reflète bien le climat idéologique de cette époque. La patrie primitive des Aryens, c'était l'Atlantide. Et puis, il y a Alfred Rosenberg. Vous voyez un peu qui c'est ? le futur philosophe du parti nazi. Je dis futur parce que ce bouquin, qui s'appelle « Le mythe du XXe siècle », il est bien nommé, il l'a publié en 1930. Et c'est en 1933 que les électeurs allemands, ils ont voté hier aussi, les électeurs allemands ont donné certains pouvoirs à ces gens-là. Mais vous constatez qu'en même temps, on est toujours très près de Rudbeck. Hein. On ne s'en est pas tellement éloigné. Bon. Et puis, il y a Edmund Kiss qui a fait une synthèse, un truc qui s'appelle « Printemps en Atlantide ». Donc, on a tout, la puissance nordique, la pureté raciale, la race supérieure et les races inférieures. La civilisation atlante est naturellement le fait d'une race nordique, d'hommes blonds aux yeux bleus. Oh là là. Société de surhommes qui est à l'origine des civilisations européennes. Edmund Kiss entre dans la Waffen-SS, mais il sera acquitté à Nuremberg. En tant que, là, ça donne à réfléchir aussi, en tant que simple archéologue. Et de toute façon, il n'a jamais été archéologue. Il était tout ce que vous voudrez. C'était un romancier populaire. Mais il a été acquitté comme archéologue. Il faut lire des choses sur les procès de Nuremberg aussi. Il y a quand même à apprendre. Bon, vous voyez que ce tour d'horizon que je termine n'a rien changé au constat de base, c'est que Platon n'est que philosophe, pas historien. Et à sa suite, chacun s'est servi de l'Atlantide pour illustrer ses idées, ou le plus souvent, pas tellement ses idées, mais celles qui dominaient son temps, en utilisant le pouvoir évocateur du mythe. Et quelques-uns s'en sont servis pour promouvoir des produits, pour exploiter l'intérêt du public, pour une archéologie du spectaculaire. Donc finalement, on peut dire que le mythe est inscrit dans notre histoire, qu'il est en nous, que l'Atlantide, révélation, est à Aubervilliers, comme partout et partout ailleurs. Alors, croyons à l'Atlantide, rêvons à l'Atlantide, jouons à l'Atlantide sans aucun complexe. Elle fait partie de notre culture et elle ne cessera pas de sitôt de vivre dans notre imagination comme un monde virtuel. Mais rêvons quand même en sachant que nous rêvons. Faisons l'histoire des idées en sachant que ce sont des idées. Ne les confondons pas avec la réalité. Comprendre l'Atlantide, ce sera mon dernier mot, comprendre l'Atlantide est légitime. La chercher, c'est une illusion, une vaste illusion. Voilà, j'ai terminé, enfin, excusez-moi.